a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
émission du mercredi 15 juillet et nous vous disons le plaisir que nous avons à recommencer à travailler avec Cheikh Moulibou Diarra, navigateur interplanétaire, un enfant du Mali, comme dit la première couverture. Je trouve que c'est un peu sot comme présentation, mais enfin, n'empêche, on va voir quel voyage il fait. Nous avons laissé notre personnage la semaine dernière, au moment où il reçoit l'avis qu'il va être, il est pris dans un laboratoire à la NASA, et voilà qui s'en va pour d'abord Washington, et ensuite on va le retrouver dans sa mission, ou ses missions, s'il y en a une première et puis il y en a quatre autres qui viennent après. Il a été à la NASA directeur de mission de 82 à 89, ce monsieur. Voilà. Je vous dirai pas plus sur sa biographie, d'abord parce qu'on l'a déjà dit, et ensuite parce qu'il en dit lui-même beaucoup, puisqu'il a choisi, dit-il, à la fin de son livre, de retourner au Mali, mais en fait, en ce moment, il s'occupe de renouveler les mathématiques aux USA. Il fait partie d'un centre de recherche. Et il a été Premier ministre au Mali, et il dit qu'il revient dans son pays, mais en fait, il revient, mais il a gardé tout son travail et ses bases aux États-Unis. Et voilà, j'espère que je ne suis pas trompée de date.
Non, c'est ça.
C'est 89 à 2002, non, je crois non. Que je me suis trompée.
Ah bon.
89 à 2002. Et il est donc accepté au début. On le voit à Paris. Il appelle ça le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, il ne commence pas en Amérique, il commence à Paris. Et il est sans faire bien attention, c'est sa chance, comme il dit, en accompagnant un ami qui lui a proposé une place dans sa voiture gratis. Et il se trouve pour passer un peu le temps, remplir un dossier comme son ami qui lui n'a pas été pris pour être étudiant à l'université de Howard, l'université scientifique. Et il apprend donc qu'on lui a...
C'est Harvard ?
Non, ouais. C'est Howard. C'est la troisième université de Washington.
C'est une université scientifique.
Il y a Georgetown, qui est la plus connue, qui n'est pas, voilà. Pas dans Washington DC, qui est juste à côté. Il y a l'université George Washington et il y a Howard.
Et voilà, et ce qui l'a propulsé dans l'actualité, c'est qu'il a eu l'idée pour sa première mission ça s'appelle le JET, Propulsion Laboratory. JPL, on en entendra beaucoup parler, et il y a eu l'idée pour cette mission de faire suivre, c'était en 97 ça, la propulsion du robot qui était le robot Sojourner sur Mars, Et ça a donné énormément d'importance dans son université. Évidemment, à lui aussi, il dit qu'à l'université aux USA, c'est pas tant. On ne te demande pas de quelle université tu viens, mais qui as-tu eu comme professeur? Parce que les enseignants, leur aura compte beaucoup, du moins d'après ce qu'il dit, lui. Donc il apprend que son dossier de description, qui a été écrit à toute vitesse, a été accepté à et qu'il était accepté à l'université de Howard. Et là, il prend l'avion et il se dit c'est le grand départ. Et les Maliens, dit-il, aiment voyager, page 157.
Non.
Tu n'as pas la bonne page ?
Non.
C'est un petit paragraphe.
Les Maliens aiment voyager, voir ce qui se passe ailleurs. Ils n'ont pas de mal à quitter leur pays, car ils l'emportent à la semelle de leurs sandales. Seuls, durant ces mois passés sur les routes africaines, ma guitare sur l'épaule, je vivais le plus modestement du monde, dormant n'importe où, dans une auberge de jeunesse, à la Belle Étoile, me contentant de dattes ou d'un plat de riz, effectuant quelques petits boulots lorsqu'il ne me restait plus rien. Si, comme beaucoup, je m'adapte immédiatement au luxe, je supporte sans mal l'extrême dénuement. Ma jeunesse en Afrique m'a si bien endurcie que je ne crains aucune privation et aucune corvée ne me rebute. Animé par la certitude que, quelle que soit la situation, je pourrais toujours m'en sortir. Et cette fois, je quittais Paris avec un sentiment ambigu. Certains de ceux que nous avions rencontrés nous avaient laissé entendre que notre présence n'était pas désirée. D'autres que nous étions le sel de la terre.
Voilà, deux façons d'accueillir les immigrés pour les âmes de bonne volonté. En effet, on sait qu'il a eu une enfance rude, avec beaucoup de travail dans les champs et de travail de force. Mais là, il montre un aspect de sa personnalité. Il est habitué aussi bien au dénuement qu'au luxe. Et yeah. Il va présenter maintenant l'université de Howard. C'est page 161. Tu trouves ta page ?
L'histoire de l'université de Howard commence en 1866, un matin de la mi-novembre. 10 membres du First Congressional Society de New York se rencontrèrent et décidèrent de créer un séminaire destiné à former des prêtres noirs capables de prendre en charge 4 millions d'esclaves à peine libérés de leurs chaînes et 25 000 noirs nés libres. Ces 10 hommes de bonne volonté décidèrent d'appeler cette fondation l'Institut Normal et Théologique Howard pour l'éducation des professeurs et des prêtres. Au fur et à mesure que les fondateurs précisaient leurs idées, leur concept de base se transformait. Le 8 janvier 1867, ils rebaptisaient leur institut, Howard University, lui donnant une devise, Veritas et Utilitas, et sollicitaient l'aide du Congrès. Elle leur fut accordée le 2 mars 1867, lors de la 39e session. L'université comprenait alors un collège normal et préparatoire et des départements de théologie, de médecine, de droit, d'agriculture. Cette université privée devint la troisième du district de Washington, après celle de Georgetown et celle de George Washington. Les membres du directoire, en particulier l'initiateur du projet, le général Olivier Otis Howard, qui donna son nom à l'université, étaient des protestants blancs, des WASP, comme on les appelle ici, White, Anglo-Saxon, ouais. Protestant.
Et la devise en latin, c'est Veritas et Humilitas.
Veritas et Utilitas.
Ah, Utilitas, ah, ouais. On les voit bien. Hein. Pas étonnant, il passe ses serments sur la pipe.
Alors, les WASP, créateurs de Howard University, ils ont été rejoints par un noir. Et l'université a reçu beaucoup d'étudiants noirs. Mais il a fallu attendre 1929 pour qu'une femme les rejoigne.
Oh, puis j'ai oublié de baisser mon truc.
Ah oui, ça, c'est la petite machine diabolique. La petite machine diabolique s'est éteinte.
Oh là là. Il faut que j'arrête, mais non, voilà.
Aujourd'hui, l'université accueille 15 000 étudiants qui viennent d'un peu partout. Afrique, Chine, Indonésie, Malaisie, Inde, Europe, Amérique du Nord et du Sud. Durant les années que j'y ai passées, de septembre 1979 à juin 1988, je n'y ai rencontré ni Français ni Japonais, mais peut-être que maintenant les choses ont changé. L'université dispose, comme beaucoup d'autres, d'une station de radio et de télévision, d'un hôtel et d'un hôpital doté de tous les services, y compris une maternité. Les moyens financiers de Howard sont considérables. Outre la subvention que lui verse le Congrès et le montant très élevé des droits d'inscription, l'université reçoit de nombreux dons privés. Les anciens élèves versent également une contribution annuelle. Je n'oublie jamais d'envoyer à chaque rentrée universitaire mon chèque de $50. Des gestionnaires triés sur le volet investissent ces millions de dollars dans des fonds communs de placement dont les revenus permettent à l'université de recruter des professeurs et des conférenciers de très haut niveau, d'avoir des laboratoires parmi les mieux équipés du pays et d'accorder chaque année de nombreuses bourses. Pour lutter contre l'apartheid, le directoire avait pris la décision de retirer les sommes astronomiques investies en Afrique du Sud. Non sans effet. C'est le niveau des enseignants qui établit la renommée d'université, c'est ce que tu disais. Aux États-Unis, on demande bien sûr à un diplômé « Où as-tu fait tes études ?» mais surtout « Qui as-tu eu comme professeur ?» Les professeurs qui, en particulier les premiers temps, choisissaient d'enseigner à Howard étaient motivés par des considérations sociales. Donner aux étudiants les plus défavorisés, aux Noirs en particulier, une formation égale à celle que dispensaient les meilleures universités.
Et c'est ainsi qu'il se retrouve à Howard. Il l'a décrit, on dirait qu'il y est déjà dedans, mais non, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il faut qu'il trouve à se loger. Il commence à loger chez un ami de son frère, son frère aîné Sidi Karamoko, qui a un appartement. Et je ne sais plus où est Howard.
C'est à Washington.
C'est à Washington.
Et en fait, il dit qu'il n'a jamais logé sur le campus universitaire parce que, en effet, au début, il s'est rendu chez Karamoko, l'ami de Sidi. Et puis finalement, ensuite, Karamoko lui a trouvé autre chose. J'ai l'impression que Karamoko, il faisait un peu des petits trafics, des ventes, ventes.
Il y en a un autre, il lui a présenté un certain Tidiani.
Voilà.
Qui est un étudiant qui fait des petits trafics et qui lui trouve un appartement.
Voilà, c'est ça.
Voilà, alors Tidiani et puis Karamoko, page 164.
Donc Tidiani était malien aussi. Il avait très vite appris l'anglais et il se levait à 4h du matin, été comme hiver, et il ne se couchait jamais avant minuit. C'était vraiment quelqu'un d'une telle endurance et d'un tel acharnement que c'était pas étonnant qu'il soit retrouvé avec du travail, de l'argent, du profit, etc., etc. Il avait commencé sa carrière comme manutentionnaire et ensuite affecté aux entrepôts, comme il livrait les cajots avant tout le monde et qu'il avait satisfait les clients avec vraiment une grande célérité. Et ben le reste du temps, il était aide cuisinier. Donc tu sais, c'est le vieux truc de plusieurs emplois par jour.
Oui.
Effectivement. Je dirais pas travailler plus pour gagner plus, mais enfin c'était un peu ça. Donc en tout cas, Tidiani, il a gagné la confiance de ses employeurs et avec ses deux ou trois boulots, il a fini par véritablement forcer l'admiration des gens qui l'employaient. Il a réussi à acheter une voiture neuve, il a acheté un répondeur téléphonique, il s'est fait prêter de l'argent par ses employeurs pour commencer à acheter et revendre à son compte. Et donc, il s'est vraiment mis à son compte en tant que cuisinier pour là aussi faire plus d'argent. Donc, à 4h du matin, il se rendait au marché en gros, il remplissait sa camionnette, il obtenait de ses fournisseurs de ne les régler qu'en fin de mois, et puis au fur et à mesure, après, il faisait une tournée pour revendre ses produits. Et évidemment, ça lui permettait au passage de faire des bénéfices substantiels. Et après, il allait livrer les restaurateurs. Donc, c'est comme ça que lui, il a ouvert son propre restaurant.
Voilà un aperçu des différentes
façons d'être. Tu sais comment il l'a appelé son restaurant ? Il l'a appelé le Baobab.
Le Baobab.
Eh oui, bien sûr. Parce qu'il existait alors à Washington des restaurants français, hindous, chinois, japonais, mais aucun restaurant africain. Donc, dès qu'il a appris que Cheikh Diarra allait venir aussi, et ben Tidiani lui a dit « Allez, jeune frère, tu viens travailler avec moi. » Et bien sûr, puisque tu n'as pas de logement, on va te trouver un logement.
C'est comme ça qu'il a été embarqué avec Tidiani, il a connu un personnage qui a fait son admiration. Il a d'ailleurs poussé Tidiani à faire mieux, à ouvrir une boîte de nuit. Et Tidiani a dit oh non, c'est pas mon genre, je n'ai pas envie. Mais il a réussi quand même à obtenir de lui qu'il ouvre une discothèque et qu'il a appelé
T'as été plus vite que moi là.
J'en suis pas encore
à la discothèque. Alors, ta discothèque.
166, si. C'est pas très loin.
Pas le nom de la discothèque.
166.
Non, pas le nom de la discothèque. Là, ils expliquent comment il a réussi. Tout ça, le restaurant, les boulots au restaurant. Mais je n'ai pas le nom de la discothèque. J'ai donc le restaurant qui s'appelle le Baobab. Ça, oui, effectivement, oui. C'est vraiment symbolique. Bon, bah écoutez, quand on l'aura retrouvé, on vous dira le nom de la discothèque. Vous pourrez y aller. Ça doit être un bon endroit pour s'amuser à Washington.
Et il disait que c'est facile. Souvent, ces soirées, même quand il était devenu professeur, le récit s'interrompt parce qu'il fait un retour au Mali parce qu'un oncle était très malade, on l'a averti, puis il est mort. Et là, oh, j'ai pas raconté la fin de l'histoire de Tidiani. Tidiani, un beau jour, a disparu. Il est en venant pour aller à la bibliothèque. Attends, j'ai oublié le nom. Il a trouvé tout fermé, sous-scellé, parce que Tidiani avait trop de façons de traiter l'argent. Il donnait assez.
C'est les contrôleurs du fisc qui l'ont arrêté.
Il donnait à ses employés des chèques en bois. Ensuite, il leur disait mais je vais vous payer en liquide. Ou bien alors, il disait faites-moi un chèque, mais à mon nom, à moi. Et il faisait une sorte de cavalerie entre plusieurs banques. Et un beau jour, il a payé le fisc. Non, il ne fallait pas. Il raconte que. Un jour, il l'a emmené dans sa chambre parce qu'il voulait de l'argent tout de suite et pas un chèque en bois. Même s'il devait être payé ensuite, il a trouvé Tiziani qui soulevait son matelas. Il y avait une énorme quantité de billets sous le matelas. Voilà la personnalité de Tiziani, mais qui lui a bien rendu service. Et on voit là, comme il est vraiment à l'interface d'un milieu. Comme tu dis, un peu nauséeux et des milieux tout à fait classiques, universitaires. Et alors, je disais, à ce moment-là, il a eu une interruption dans sa carrière parce qu'il est revenu au Mali. On voit là aussi qu'il est pas très, il est comme beaucoup, pas très sûr de ce qu'il veut. En tout cas, il est très attaché à son pays. Et il profite du séjour pour aller rendre visite à d'autres membres de la famille et il emmène une de ses sœurs qui vient de voir un bébé, qui s'est toute contente d'aller à Bamako parce qu'eux ils sont à la campagne. Et sur la route, eh bien, il y a un accident, il la tue. Et il se trouve très secoué parce que sa sœur qui s'appelle Oumou. Et est morte, il s'est toujours demandé s'il n'avait pas fait s'il n'avait pas été au volant distrait parce qu'il parlait avec sa sœur, ou est-ce que c'était la route, ou est-ce que il s'était un peu endormi au volant, il s'est trouvé sur le bas chemin, il a voulu donner un coup de volant, et son père lui avait donné un énorme sac de riz à donner à la famille, et ce sac de riz trop lourd pour la petite voiture l'a peut-être déstabilisé, il se pose ces questions-là, et puis alors, la remarque finale est à dire et à pointer, il dit, au moment de partir, mon père avait une mangue qu'il était en train de mordre, et il me l'a donnée. Et il m'a dit, partage avec ta sœur. Et la sœur n'a pas voulu, alors il voit un signe du destin. Et il dit que toute sa vie, il a été hanté par l'idée qu'il aurait dû donner la moitié de sa manque à sa sœur qui n'en avait pas voulu et insister. On voit là aussi un aspect de sa personnalité. Et ensuite, il raconte que ce que c'est une journée au baobab. Je suis dans le rythme qu'il faut, une journée au baobab. Et il complète sa solde avec, avec un travail aux travaux publics. Ah, j'ai retrouvé là, c'est le village qui s'appelle.
D'accord.
Tu as trouvé là, page 166.
Non, mais c'est pas grave, maintenant on va continuer. On sait que bon, le restaurant s'appelle le Baobab et que la discothèque s'appelle le Village.
Et on voit qu'il a des journées qui sont terriblement dures parce qu'il travaille. Il a trouvé du travail classique et puis la nuit il s'en va au Baobab, mais il aide et il travaille.
Et à ce moment-là, alors on en est où? Il reprend ses études.
Regarde un peu la mangue, 180. Quel récit? Moi, je n'ai pas regardé l'heure pour qu'on sache. 180.
C'est aujourd'hui très bref. Encore, un regret me tourmente. Mon père mangeait une mangue le matin de notre départ et m'avait dit « Prends-en une et partage-la avec Oumou. » Mais malgré mon insistance, elle avait refusé. « Tu en es privé toute l'année dans ton université, là-bas. Prends-la en entier. » Je crois que si j'avais réussi à la convaincre de manger la moitié de cette mangue, elle serait vivante à l'heure qu'il est. Je sais à quel point l'idée est irrationnelle, n'empêche qu'elle me poursuit encore.
Voilà.
Eh oui, donc il a été longtemps poursuivi par cette culpabilité, et puis bon, il est parti reprendre ses études.
Et il est persuadé aussi qu'il a de la chance, et à ce moment-là, sur la place de à Paris, il est invité avec un congrès entre autres on a fait visiter les Galeries des Glaces parce que c'est à Versailles que se passe le congrès et en sortant il tombe sur une belle bague, une belle émeraude. Il la met dans sa poche. Il l'emmène chez lui en se disant qu'il allait en faire cadeau à sa compagne d'alors, enfin sa relation d'ailleurs, d'alors. Et il l'emmène chez le bijoutier qui lui dit « Mais c'est une très très belle pierre, je vous en donne tant. » Alors il lui dit « Non. » Et puis du coup, il ne la donne pas à sa dulcinée. Il la garde et puis il dit qu'il l'a perdue. Voilà comment c'est son histoire. Et à ce moment-là, il reçoit deux avis, comme quoi il est pris par la NASA dans deux ateliers, page 182.
Alors, de retour à Washington, je repris mes cours et pour échapper à une tristesse lancinante, je me remis au travail avec acharnement. Dans l'espoir de m'abrutir, je consacrais tout mon temps à ma thèse de doctorat, mon PhD, comme on dit là-bas en Amérique. J'avais décidé de poursuivre dans la voie dans laquelle je m'étais déjà engagée, la construction et la commande des satellites. Lawrence Taylor et Evi Balakrishnan venaient de décrire une expérience portant le nom de SCOL, Spacecraft Control Laboratory Experiment. C'était l'une des deux expériences que la NASA espérait alors mener en orbite. L'autre s'appelait COVSIM. Control of Flexile Spacecraft. Toutes deux s'effectuaient pour l'instant sur des maquettes en laboratoire, car il est aussi coûteux que dangereux de tester des systèmes de commande directement dans l'espace. Mon choix se porta sur SCOL. Le système présentait beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, mais une fois les lois de la commande trouvées, il pouvait se révéler d'une utilité extraordinaire. Il s'agissait cette fois de relier à la navette une plateforme rectangulaire au moyen d'une poutrelle flexible de plus de 30 mètres de long. Cette plateforme serait équipée, on s'en doute, de toutes sortes d'appareils, certains devant être orientés très précisément, de façon à surveiller par exemple des trajectoires d'engins ou de corps célestes, ou à émettre des signaux et des rayons. Dans les cas les plus complexes, des mécanismes de détection et d'intersection et d'interception devaient cohabiter, les données obtenues durant la phase d'observation servant à la détermination de l'orbite de l'objet visé. Il fallait donc être capable de réorienter régulièrement la plateforme rigide au moyen de la poutrelle flexible qui la rattachait à la navette. Puis, une fois obtenue la configuration désirée, de faire disparaître les vibrations et les mouvements résiduels dus à la flexibilité de la poutre afin d'atteindre la précision nécessaire au ciblage. Tel fut le sujet de ma thèse. Formuler les lois de la commande permettant d'orienter la plateforme le plus rapidement et le plus précisément possible et de la maintenir fermement en éliminant les vibrations résiduelles.
Nous voilà, hein, la tête dans
les
étoiles.
Ça me rappelle la stabilisation d'image, oui. Bon, ben voilà.
Et il n'y a pas que Proust pour faire des phrases longues, hein, mais tu t'en es bien, je trouve que tu en es vraiment très bien tiré. Alors, il commence donc une vie de personnalité scientifique, il est invité à des congrès, un jour, il se retrouve à Bamako parce que le ministère de l'Éducation nationale du Mali a invité des scientifiques. Et alors on vient le chercher et il faut vous dire qu'il a choisi, hein, Cole. Il a choisi ce...
Cole.
Oui, oui. Mais celui que tu disais au début, oui. il y en avait deux.
Spacecraft Control détaillé... Laboratory, voilà. Experiment Lab. L'autre, Cobbs, il n'a pas pris.
Non, il a choisi Cole et il a expliqué ce que c'était. Cole. Et alors, une anecdote, ça nous fera un peu sourire après cette balade dans les étoiles. Il arrive à l'aéroport et une belle voiture l'attend. Et il s'aperçoit que le chauffeur de la voiture est un bambara. Donc il parle un peu avec lui, il lui dit qu'il est un enfant du pays, quel est le nom du village où il était et tout. Et puis, le lendemain matin, quand on vient le chercher à l'aéroport, quand je vais chercher pour l'emmener au palais des congrès, il a un vieux taco, il ne comprend pas pourquoi il a un vieux taco à la place de la belle voiture, mais il dit il faut faire bon effet aux étrangers, alors on envoie des belles voitures à l'aéroport, et puis ensuite quand c'est le pays, ben on fait ce qu'on peut. c'est l'austérité au Mali.
Et puis, les belles voitures sont réservées aux étrangers, c'est drôle quand même.
Quoi ?
Les belles voitures sont réservées aux étrangers, voilà, les gens du pays doivent se contenter des vieux tacos.
C'est un peu, là c'est un humour un peu aigre sur la situation au Mali. Et on voit qu'il n'arrête pas de faire sentir sa relation à son pays. Mais là, comme il aime bien les belles voitures, il a trouvé que ce n'était pas drôle d'être... On vient de chercher un taco, alors que pourquoi pas, c'est pas grave. Et au Mali, l'essence n'est pas chère, alors on regarde pas, on a des grosses voitures.
Non, puis c'est drôle de voir que finalement, à peine a-t-il réussi, qu'il est traité justement comme un étranger, et non plus comme un Malien.
Mais il sait qu'il venait avec tout un congrès.
Bah oui, bien
et
sûr.
Oui, ils auraient dû être contents, et maintenant, là, visiblement... Il y a comme un fossé qui se creuse. Hein. Alors, il est aussi emmené 10 jours à Rio pour un congrès et il est pris d'enthousiasme pour la samba. Une nuit, il entend de sa chambre danser la samba, il descend hélico, il passe toute la nuit à danser. Il est très fier aussi de raconter qu'il a réussi à convertir un des éminents scientifiques avec qui il travaille, à venir à Bamako et à s'intéresser au Mali, alors qu'il ne s'intéressait pas du tout. Alors il est très content. Alors ils sont venus, et il est venu avec tout un groupe. Là, et à la suite de ce congrès, eh bien, les Maliens lui ont demandé, dit-il, lui ont proposé de revenir et de faire un travail avec eux. Il dit... Il a répondu qu'il était bien d'accord. Ils lui ont jamais répondu. Qu'est-ce qui a pu se passer au Mali? On sent qu'il en veut à son pays d'être pauvre, quoi. D'être pauvre. Et
donc il retourne aux États-Unis.
Alors, intéressant. un petit paragraphe avant les États-Unis et avant l'écran sur cette conception de l'amour. J'ai déjà parlé de la bague, page 204. C'est un paragraphe court. Tu trouves pas?
Oui, je sais pas. Bon, il parle de la liaison avec une jeune femme.
Oui.
Il dit qu'il avait 33 ans et que sa conception de l'amour n'avait pas changé. Il continuait à traiter de la façon la plus frivole et un sentiment qui aurait pu être sérieux.
Ouais, c'est ça.
Et bien sûr, il avait une relation un peu épisodique avec cette jeune femme puisqu'il voyageait.
Si épisodique qu'elle a eu très peur parce qu'il a été... Il a profité du fait qu'un de ses oncles, qui était un personnage notable du Mali, était invité pour aller le rejoindre. Et alors, à ce moment-là, son oncle, lui aussi, qui s'appelle Amidou, et qui était on voit le religieux s'introduire là dans le politique, et qui était un marabout célèbre, l'a invité, l'a emmené, lui dit, écoute, je suis invité 10 jours au Noascott, accompagne-moi, tu peux prendre, c'était le début des vacances, il est parti. Ensuite, il n'a plus pu repartir parce que son oncle avait dépensé tout l'argent qu'ils avaient eu à Washington. Et alors, il doit attendre et faire toute une quête pour arriver à retrouver et beaucoup de coups de téléphone.
Les frais du retour.
Pour les frais du retour. Et alors, et c'est là au retour, à peine arrivé chez lui, enfin à Washington, il dit, oh, j'ai préparé un réflexe d'occidental, j'ai téléphoné à Barbara. C'était la jeune femme avec qui il avait une relation. Et alors Barbara, elle s'était affolée parce qu'il est passé 45 jours sans donner de nouvelles. Il n'y avait pas de wifi, rien du tout là où il était. Et alors c'est là qu'il s'explique avec sa conception de l'amour.
Oui, et il dit que de toute façon, il menait une vie dissipée de célibataire, que ses journées étaient toujours trop courtes, qu'il donnait des cours dans la journée, consacrait le restant du temps à l'achèvement de sa thèse, et qu'en effet, il passait ses nuits à s'amuser. Donc finalement, une liaison dans ces cas-là, pourquoi pas, mais enfin, il ne fallait pas que ça soit un fil à la patte, manifestement.
Oui, mais...
Bon, c'est normal, il avait 33 ans, je te signale alors. Donc,
j'ai trouvé que c'était un peu énorme, les journées comme ça.
Ben non, c'est juste normal.
Je me disais, est-ce qu'il exagère pas un peu, hein? Mais non. Et alors, on va reprendre des choses un peu plus sévères. Hein? Et quel genre de problème il donne à ses étudiants, page 213. Parce qu'il reprend donc sa vie de professeur en même temps qu'il est chercheur.
Oui, en fait, il est étudiant, enseignant, chercheur, puisqu'il est doctorant. Donc,
Parce qu'en même temps, il continue sa thèse.
Il termine sa thèse, et en même temps qu'il termine sa thèse, bien sûr, il donne des cours.
Alors, page 213.
Et alors, donc, pour les examens, qui est toujours la période des examens, c'est toujours un moment de travail intense, il devait aider le professeur en titre en élaborant les problèmes qu'il soumettait aux étudiants. Donc là, il nous donne un exemple. Moi, je dois dire que je ne sais pas si je vais savoir. Hein. Voici un exemple des sujets que je leur donnais à traiter. Supposons un pont à deux voies. Chaque fois qu'une voiture tombe en panne sur ce pont, en particulier aux heures de pointe, à l'aide d'une grue, un harnais descend à la hauteur du véhicule, la soulève et la dépose à la sortie du pont afin de dégager la voie. Je dessinais au tableau le pont et au milieu du segment, la voiture entre les deux points de jonction. La question était alors la suivante. Trouvez les forces internes de tous les segments du pont et dites pour chaque segment s'il est en tension ou en compression. Et il avait pensé en posant la question au pont de Bamako, où le problème de voiture en panne se posait quotidiennement. Et il essayait de faire en sorte que les élèves fassent appel à leur réflexion, non à leur savoir. Ces étudiants en deuxième année de licence n'avaient encore rien appris sur l'analyse des structures que la méthode des nœuds et des sections. Et donc ce qu'ils avaient étudié des structures n'était donc pas applicable à ce problème. Ils ne pouvaient pas résoudre le problème. Donc, Cheikh Diarra nous dit « J'observais mes étudiants, ils suaient à grosses gouttes, ils se mordaient les ongles, ils se passaient les mains dans les cheveux, ils montraient tous les signes de l'anxiété la plus profonde. » Et seul l'un d'eux, au bout d'un quart d'heure, rédigea un court paragraphe dans lequel il expliquait que ce que nous avions étudié des structures n'était pas applicable à ce cas et que donc il ne pouvait pas traiter le problème. Puis il se leva, déposa sa copie sur mon bureau et sortit. Il eut 20 sur 20. Les autres demandèrent un sursis d'une demi-heure. Mais ok, je n'ai rien d'autre à faire, leur dis-je. Et le délai passait, ils sortirent, mais dans le même état de découragement total.
On voit quand même à quel point il aime jouer. Et c'est à ce moment-là que, le 2 juillet 1988, dit-il, il quitte Washington. Il a été recruté par des chasseurs de têtes. On vous lira peut-être le passage. C'est page 215.
Pour la NASA.
Oui.
Je me demandais si j'allais rester à Washington et donner des cours d'été ou rentrer chez moi au Mali. J'hésitais entre ces deux options, ne sachant trop laquelle choisir. Un matin, j'étais sûre de partir. Le soir, la journée n'était même pas achevée, que j'avais décidé de ne pas bouger. Et puis, un jour, en rentrant chez moi, j'aperçus dans mon courrier une lettre à l'entête de la NASA. Mon cœur battait si fort que j'ai eu du mal à décacheter l'enveloppe. Je finis par la déchirer. La lettre, à l'intérieur, était pliée en quatre, de sorte que je ne sus pas au premier coup d'œil si c'était oui ou non. Le monde chavirait autour de moi. La première phrase m'informait que le département de génie mécanique et celui de navigation étaient tous deux intéressés par ma candidature. Puis l'auteur de la lettre me disait mon traitement, évalué en fonction de mon expérience, et me demandait de téléphoner au plus tôt pour dire si j'acceptais une proposition et à partir de quelle date j'étais libre. J'ai froissé la lettre, je l'ai jetée en l'air et je l'ai envoyée d'une tête contre le mur. C'était parti pour une folle nuit de Nouba. Et après, le lendemain, bien sûr, j'ai appelé Pasadena et en fait, j'avais choisi la navigation. Navigateur interplanétaire, c'était ce que je devenais. Et ce titre me remplissait d'une jubilation si intense qu'aujourd'hui encore, malgré toutes les années écoulées, elle n'est pas tarie. La personne que j'ai eu à l'appareil me demanda « Quand pouvez-vous commencer ?»« Bah, je ne sais pas, il faut d'abord que je prenne des vacances. » Bon, appelez Gilles Bonnemal en PCV et négociez avec lui. Et je l'entends encore me dire « Hello, le shaker !» Jusqu'à ce jour, incapable de prononcer « shake », Jean m'appelle « shake » ou « le shaker ». Ben oui, parce que « shake », c'est « cher » en fait, et pas « shake ». Donc, mais c'est pas « shake » ou « shaker ».
Pas dans son orthographe à lui, parce que c'est « CK », c'est pas « KH ».
Mais c'est quand même cher.
Ah ouais.
« Je suis heureux que tu nous rejoignes !» lança Jean. Arrive tout de suite. Mais non, impossible, j'ai besoin d'un peu de repos. Bon, alors disons dans 2 semaines. Oh, 2 mois, il n'en est pas question. Transigeons, selon la loi des moyennes. Bon, le 11 juillet tombe à lundi. D'accord, mais je dois déménager mes meubles, mes livres. Toutes les questions pratiques furent résolues en quelques instants. Le 7 juillet, je quittais Washington, mon poste d'enseignant et ma carrière universitaire. Dans l'avion qui traversait le pays d'un océan à l'autre, j'avais le sentiment d'être un équilibriste qui, pour la première fois, effectue un triple saut périlleux sans filet.
Voilà, on va mettre un peu de musique après l'avoir laissé.
Ongele bao munyenge.
Notre personnage va arriver à la station et c'est une chose que déjà d'assister à la station, la tête dans les étoiles comme idée, et au laboratoire de contrôle de la NASA. Et comment peut-on y arriver? Comment peut-on accéder à ce fameux télescope? Page 219.
Alors, le télescope, il est situé sur le toit d'un des bâtiments de l'université, la Caltech, California Institute of Technology. Et pour accéder à ce télescope, il faut, tel le prêtre d'un temple, posséder les clés qui ouvrent les portes du sanctuaire. Lorsqu'on franchit celle du rez-de-chaussée, on pénètre dans une salle qui, dans la journée, sert de bureau aux étudiants en astronomie. La deuxième clé ouvre la porte par laquelle on accède au toit. Enfin, au fond d'une vaste terrasse, s'élève un dôme. C'est derrière la petite porte de ce lieu sacré que se trouve le télescope. Un soir, j'y emmenais l'un de mes amis qui rêvait de découvrir Saturne et ses anneaux. Il parut désappointé. Le visage collé à l'œilleton, il disait ne voir que des lumières floues, rangées en ligne droite et traversées de scintillements rougeâtres. J'avais beau lui prodiguer des conseils, il ne voyait rien de ce qu'il espérait. Je m'aperçus alors que j'avais oublié d'équiper le télescope des lentilles que chacun des membres de notre organisation doit apporter lui-même et qui étaient restées dans ma poche. Ce qu'il contemplait, c'était l'autoroute qui mène à Los Angeles. Les nuits très douces du sud de la Californie incitent à de longues veillées sous la voûte céleste. Elles offrent un spectacle exaltant qui apaise, émerveille, inquiète aussi, suscite un grand désir de connaître et de comprendre les mystères de l'univers. Elles réveillent chez l'homme le plus paisible une soif d'aventure irrésistible, l'envie de s'élancer dans les espaces sidéraux où galaxies, soleils, planètes, lunes, comètes et astéroïdes se déplacent selon une chorégraphie fantastiquement réglée dont l'harmonie fait rêver. Il faut être patient pour mériter d'assister à ce show. Au-dessus de toute la région de Los Angeles plane le triste couvercle de pollution qui étouffe toutes les grandes métropoles. L'observateur qui se retrouve le soir sur un toit devant un télescope doit attendre un bon moment que le rideau se lève. Dès l'aurore, L'atmosphère subit l'assaut des gaz que propulsent les millions de voitures qui sillonnent nos routes. Puis elle se stabilise quand la nuit abaisse la température de l'air, que l'impitoyable soleil californien élève durant le jour à des sommets sahéliens.
On va maintenant faire, après la promenade des yeux dans les étoiles, une autre promenade. Et il s'agit de faire connaissance avec Jupiter. Page 222.
De toutes les planètes qui constituent notre système solaire, il y aurait dans notre galaxie des centaines de milliards de soleils. Celle qui me donne le plus de joie quand je l'observe, c'est Jupiter, le dieu de l'univers. Cette sphère, 1400 fois plus grosse que la Terre, me remplit d'humilité. Nous sommes si petits, si insignifiants à côté de ce géant, escortés de ses 16 lunes, comme un roi de sa cour. La plus proche de lui, Métis. La plus lointaine, Sinope. Entre les deux, Adrastée, Amalthée, Thébée, Io, Europe, Ganymède, Callisto, Léda, Himalia, Lysatea, Elara, Ananke, Carme et Pasiphae. Les quatre plus importantes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, sont visibles avec simplement de bonnes jumelles. Jupiter, avec ses lunes, ressemble à un mini-système solaire. S'il avait été plus massif, il aurait pu commencer des réactions nucléaires qui en auraient fait un deuxième soleil. À la différence de ce dernier, il tourne sur lui-même comme une toupie, effectuant une rotation en 9h55. Livré à cette danse folle de derviche, il fait par ailleurs le tour de son orbite avec une lenteur majestueuse, puisqu'il met 11 ans et 10 mois à faire le tour du soleil. Jupiter, que les Romains représentaient justement une foudre menaçante à la main, vit entouré d'orages apocalyptiques. Son atmosphère est zébrée d'éclairs et agitée de tornades délirantes. Sur la zone que l'on appelle le Great Red Spot, assez grande pour contenir la Terre, une tornade exerce ses ravages depuis un siècle, peut-être même depuis trois, sans avoir jamais perdu de sa violence.
Voilà. Quelques petites leçons, et j'avoue que cette présentation de Jupiter me semble une bonne vulgarisation. On va avoir maintenant deux petits paragraphes très brefs, mais quand même pour expliquer ce que c'est que le transfert, les orbites de transfert, parce que c'est justement le but de son opération, changer l'orbite d'une sonde pour que la sonde puisse atteindre Mars. Alors, c'est page 227 et 229.
Depuis Galilée, les télescopes ont ouvert de nouvelles perspectives à l'astronomie et ont préparé la conquête spatiale. Ils demeurent des instruments essentiels, car c'est grâce à eux que nous recueillons les données indispensables au calcul des orbites, des planètes et des lunes. Les orbites de transfert sont des segments de coniques ayant le centre du Soleil comme point focal.
Voilà.
Ils coupent, ou lui sont tangents, l'orbite que décrit la Terre autour du Soleil et intersectent l'orbite de la planète vers laquelle on envoie une sonde. Ou lui sont tangents. Imaginons que Vénus soit la planète de destination. Il est facile de calculer la durée du temps que mettra la sonde pour parcourir le segment compris entre le point de lancement sur Terre et le point de rendez-vous qui marque l'intersection de l'orbite de transfert avec l'orbite de Vénus dans notre cas. Je continue ?
Voilà. Il y a un autre petit paragraphe, page 229, faire atterrir une sonde, voilà. C'est bref.
Faire atterrir une sonde sur une planète est une opération compliquée. En effet, sa trajectoire doit subir un fléchissement telle que la sonde pénètre dans l'atmosphère de la planète d'arrivée. L'angle que fait le segment final de la trajectoire avec la tangente à l'atmosphère au point d'entrée, la vitesse réelle des vents, la dimension des parachutes et leur temps d'ouverture, les moteurs à allumer, la vitesse d'entrée de la sonde dans l'atmosphère, tels sont les plus importants paramètres qui déterminent la précision de l'atterrissage. Bon, c'est une paille, quoi.
Il orne son chapitre quand même d'un beau schéma où on voit plusieurs orbites, on voit la Terre, on voit Mars, et ça aide bien, parce que sinon, je trouve que c'est vraiment difficile
à comprendre. Enfin, lui, ce qu'il prépare, c'est pour sa sonde, c'est un voyage de la Terre à Mars.
Et oui.
Et oui. Alors, c'est bizarre qu'il nous donne l'exemple de... des autres planètes.
Mais parce que c'est tout le système solaire qui est en cause.
Mars ah oui, bien
est,
sûr.
Et dedans. Mmh. Et ah alors, oui, dans le schéma, on voit Mars, on voit la Terre et Jupiter fait sa petite affaire. Alors, et il va nous parler de Pasadena.
Donc Pasadena, c'est le siège de la NASA, enfin c'est le siège des bureaux de la NASA où il travaille, des laboratoires plutôt où il travaille. Ouais.
En fait, c'est on va parler, tu as raison, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il faut faire attention, hein, de la mythique NASA, page 257. Je t'emmène un peu plus loin, mais...
Il n'y a rien, page 257.
237 peut-être. D'accord. Oh, j'écris mal.
Ah oui, la mythique NASA. Donc avant d'aborder le récit des 5 missions que j'ai menées avec la NASA, il me semble utile de rappeler comment est née cette gigantesque administration, quels sont ses buts, ses moyens, ses activités, et donc ses caractères spécifiques. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique avait lancé dans l'espace Spoutnik, le premier satellite artificiel. Cet exploit stupéfia le monde, mais mortifia les Américains. L'URSS leur avait infligé une défaite cinglante qu'il fallait au plus vite effacer. Jusqu'à cette date, seul le Jet Propulsion Laboratory, dépendant de l'Université California Institute of Technology, où j'étais, concentrait ses recherches sur les fusées, sous contrôle de l'armée. Pour répondre aux défis soviétiques, le président Eisenhower, dès le 2 avril 1958, proposa au Congrès de créer la NASA, la National Aeronautics and Space Administration, dont le dessein d'unifier, dans une même organisation, les laboratoires spécialisés dans la recherche spatiale. Donc, la NASA, c'est vraiment le chapeau qui coiffe toutes les recherches destinées à aller dans l'espace. Et donc, le 20 juillet de la même année, le président demande au Congrès d'allouer à cette nouvelle agence un budget initial de 125 millions de dollars. Ils font nommer des administrateurs. Et 10 ans plus tard, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Ouais, pensent les Américains. Donc, les Américains deviennent à ce moment-là les maîtres incontestés de la conquête spatiale.
Voilà. Et on voit qu'il a collaboré à cette grande lutte entre deux blocs, et vraiment bien du côté des Américains. On peut se poser la question, on a encore deux minutes, qu'est-ce qui fait les raisons de son succès? Parce que tout de même, un enfant qui a joué dans la rue et qui a fait des tas de bêtises avec ses petits camarades dans son village, le voilà propulsé dans des belles voitures
Et dans des laboratoires de la NASA.
Et dans les laboratoires de la NASA, oui. Et il n'est pas resté d'ailleurs très longtemps, puisqu'il est parti
t'as dit qu'il était assez de 82 à 2004, non?
Ben oui, mais c'est quand même pas...
Une carrière... Ça fait 22 ans quand même.
C'est pas une carrière...
C'est pas mal, 22 ans à la NASA, non? Il a fait 5 missions.
Mais par rapport aux carrières universitaires actuelles, où c'est quasi 60 ans, ça paraît court. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il a retrouvé son pays, il a fait de la politique. Et puis ensuite, comme il s'est fait éliminer, je ne sais pas pour quelle raison, il ne s'est pas dit. Ainsi, il s'est fait mal voir pour son assistance au moment des affaires au Mali, et où la France a décidé d'intervenir pour lutter contre les djihadistes. Il voulait que ce soit une force internationale qu'il y ait, et pas une force française. Et puis il était son dada, c'était qu'il fallait restaurer, pourquoi pas, l'agriculture. Et il s'occupe aussi des nouvelles maintenant de l'agriculture.
Des nouvelles techniques agricoles, justement, voilà. Le fait de revenir à une agriculture locale et plus forcément et uniquement à une agriculture d'exportation.
Née
de la colonisation.
Voilà. Alors, dans ces raisons de son succès, ce qu'on voit d'abord, je prends la suite du livre, c'est l'éducation est dure, hein. Et puis alors, il a un don pour l'anglais, parce qu'il arrive, quand il arrive à Washington, son ami lui avait dit, mais tu ne pourras jamais suivre les cours, tu ne connais pas l'anglais. Et bien, il dit qu'il a eu un mal fou, mais qu'il enregistrait les cours et que le soir, il les réécoutait. Et il est arrivé à apprendre l'anglais assez rapidement.
L'anglais, oui, donc peut-être qu'il était doué, mais surtout il a beaucoup travaillé. Moi je pense quand même que s'il a réussi, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé. Même s'il nous dit qu'il s'amuse et qu'il prend le temps de s'amuser, il sait aussi utiliser du temps pour travailler.
Et puis il doit avoir une puissance de travail énorme, parce qu'avec tout son temps qu'il passe à suivre les cours, à donner des cours, à faire sa thèse, ben, est-ce qu'il a le temps de faire sa thèse? On a connu des docteurs qui n'arrivent pas à finir leur thèse. Et on voit la différence entre un parcours français et un parcours aux USA. Hein.
Ben et non, en France aussi, les jeunes, ils travaillent, ils sont enseignants, chercheurs et ils finissent leur thèse.
Ouais.
Ben oui, pareil. Et ils font la fête aussi. Ils sont jeunes.
Et alors, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il donne beaucoup d'importance, il revient souvent à la chance.
Ah oui, il croit en sa chance. C'est amusant pour un mec qui vit dans les étoiles. Il croit à son étoile, ça c'est très net. Oui. Il pense qu'il a vraiment de la chance dans la vie.
Et puis, indépendamment de ça, on sent qu'il a une grande confiance en lui. Mmh. Il est sûr qu'il va y arriver. C'est difficile, mais il va y arriver. C'est l'heure.
C'est bon.
C'est bon, vous allez
vous attarder. On a encore quelques minutes pour travailler.
Un mot à dire encore. J'ai remarqué, il parle beaucoup de ses camarades et des gens qui l'ont aidé à un moment où il était bien embêté. Ça, il en parle quand même. Hein. On sent qu'il y a un esprit solidaire là-dedans. Alors, sympathique ou pas sympathique, après tout, on s'en fiche. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il est arrivé là où il a été et où il est maintenant. Au fond, il le dit, il aime beaucoup enseigner et il se trouve en train d'étudier la pédagogie. Hein.
Oui, et il dit aussi qu'il a trouvé très profitable justement de faire des études dans différents pays. Parce que finalement, il a fait ses études secondaires au Mali, puis il est parti en France. En France, il a fini le secondaire, commencé le supérieur, puis il est allé aux États-Unis pour faire encore des études supérieures. Et il dit que la complémentarité des trois systèmes d'éducation lui a beaucoup profité.
Ouais.
Et que justement, il a pu tirer des enseignements de ces trois différents systèmes. Donc c'est pour ça qu'après, il s'intéresse à la pédagogie et qu'il essaye de promouvoir des pédagogies actives qui lui semblent en effet nécessaires pour que les jeunes réussissent.
Et il a, je trouve, moi, un exemple du citoyen anthropocène. Il y a un livre qui était l'Anthropocène. On serait à l'époque où la planète, c'est les hommes anthropos qui la font. C'est
le troisième téléphone. Mais je pense que vous allez maintenant terminer.
Oui.
Ah, mais il faut dire quelque chose.
Oui. Tu peux conclure l'émission.
Ben, c'était sur l'Anthropocène.
Oui,
donc
voilà.
Finalement, c'est un homme qui a profité de plusieurs systèmes d'éducation et qui maintenant peut être à l'origine de la promotion de ce que tu appelles l'Anthropocène, c'est-à-dire
la planète. Oui, mais l'Anthropocène, c'est grave.
Pourquoi ?
Il est passionné par ses études, par ses calculs, par tout ce qu'il fait. Mais tu te rends compte, la NASA, c'est le Congrès spatial, c'est très beau. Mais le nucléaire, il fait partie de ces savants qui
Ah, tu veux dire qu'il est, trop admiratif de la technologie,
oh, ouais,
quoi.
Il croit
dans le progrès.
Ouais. Et puis il s'amuse. Ce partage de sa vie entre les études et l'amusement, les femmes. Oh, il est quand même marié, il le dit à la fin, qu'il rencontre une femme, une malienne.
Laissons la romance, car nous terminons l'émission.
Laissons sa vie privée de côté, c'était pas ça le sujet de la chose.
Non, mais ça ça fait partie de ce qu'est le monsieur de l'Anthropocène.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
sinawe.